Interview.
1 Interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. L'interview du jour sera consacrée à la nouvelle édition, l'édition 2012 du festival Est-Ouest. Et pour cela, je suis accompagné de Sylvaine du journal du DIWA. Bonjour à toi.
Bonjour.
Et nous allons poser des questions à Harold David, directeur de l'association Festival Est-Ouest. Bonjour.
Bonjour.
Et tu es accompagné d'Antoine, dont je n'ai pas tout à fait déterminé son poste avec vous, mais en tout cas, j'imagine qu'il vous aide pas mal. Nous, c'est notre premier contact, on va dire, à la radio.
Mais Antoine, en fait, est en service civique pendant quelques mois au sein de l'association et il est notamment en charge de la communication et des relations presse. Donc, pour le festival, comme on attaque le plan de communication ces jours-ci, eh bien, c'est la raison pour laquelle c'est son premier contact avec RDWA pour l'instant.
Voilà, notre contact, même d'ailleurs sur les espiègleries, ça avait été déjà le cas aussi. Eh bien, bonjour à toi, Antoine.
Oui, bonjour.
Le sujet est lancé, on est ensemble pour parler de cette édition La Croatie comme pays invité, Festival Est-Ouest qui va se tenir bientôt.
Du 19 septembre au 30 septembre.
Et au donc, 30
sur
septembre.
Les 10 derniers jours de septembre, comme chaque année depuis quelques temps déjà.
Oui, cette date ne change pas.
On est resté sur ces dates-là. Il n'est pas prévu, a priori, que ça change. Effectivement, pour l'instant, on est resté dans cette tradition de positionner le festival sur la fin du mois de septembre pour prolonger aussi la saison d'été ici dans le DIWA. Et puis,
c'est la raison première.
La raison première pour laquelle ces dates ont été mises à cet endroit-là, je ne crois pas. Je crois que l'histoire antérieure du festival avait d'autres motivations que celle-là. Nous, on ne les a pas bougées. Enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis là, depuis 2008, on ne les a pas bougées, entre autres pour cette raison-là. Mais aussi, parce qu'il y avait cette habitude et cette fidélité du public autour de ces dates. Donc, dès qu'on change des dates sur une manifestation, c'est pas toujours évident. Donc, comme là, il n'y avait pas de raison impérative.
Puis tu avais parlé un peu l'année dernière aussi du fait que justement ça prolongeait un peu la saison, ça permettait de faire une sorte d'arrière-saison.
C'est aussi l'idée, de la même manière que les espiègleries avaient pour objectif de lancer la saison, et bien on va dire que le festival Est-Ouest a pour objectif aussi de clôturer la saison touristique d'été.
Donc Sylvaine, tu n'hésites pas à poser tes propres questions, les auditeurs seront au courant. Par quoi voudrais-tu commencer ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'un peu plus important ? L'année dernière, il y avait ce message autour de la Grèce. Est-ce que cette année, il y a un message particulier avec ce festival ?
Autour de la Croatie en tant que telle, non. Enfin, le choix de ce pays en fait a été déterminé d'une part parce que il y a un événement national là qui va démarrer aussi en septembre, qui est une saison culturelle étrangère en fait dédiée à la Croatie de septembre jusqu'au mois de décembre, qui s'appelle Croatie la voici. Donc c'est vrai que le fait de faire le choix de ce pays nous permettait de nous inscrire dans cet événement national et du coup de bénéficier d'un soutien du ministère des Affaires étrangères et français et croate sur l'organisation du festival, ce qui est jamais négligeable compte tenu de nos économies actuelles. Indépendamment de cela, c'était aussi dans le souci de prolonger cette exploration de la zone balkanique avec la Turquie et puis la Grèce l'an dernier. On avait initié, dans la mesure où c'est vrai que dans les éditions antérieures du Festival Est-Ouest, c'est surtout l'Europe centrale qui a été invitée.
Ex-URSS presque même d'ailleurs.
Ex-URSS, ex-bloc soviétique, et assez peu finalement les pays des Balkans, puisque de mémoire il y avait qu'une édition dédiée à l'Albanie qui avait évoqué cette région-là. Il y a aussi une actualité toute prochaine pour la Croatie qui va faire son entrée dans l'Europe en 2013. Donc l'ensemble de ces paramètres a fait que ça nous semblait pertinent de dédier cette édition à cette jeune république.
En même temps, est-ce que la Croatie se situe vraiment dans les Balkans ? Est-ce qu'il se revendique vraiment pour des Balkans ?
Alors ça, c'est tout le débat, c'est-à-dire que historiquement, on ne peut pas nier qu'il soit effectivement dans les Balkans. Après, il semblerait que la position officielle, en tout cas du gouvernement croate depuis quelques années, et plutôt de revendiquer une identité méditerranéenne qu'une identité balkanique. Pour autant, cette identité balkanique, quand bien même il vaudrait s'en défaire, elle est présente dans l'histoire même de ce pays. Ça va faire l'objet effectivement de débats et d'échanges à ce sujet, puisque notamment, je sais qu'on a une table ronde qui évoque la question du fédéralisme, puisque la Croatie faisait partie de l'ex-Yougoslavie et qu'après l'implosion du bloc soviétique et donc de la Yougoslavie en tant qu'État fédéral, la Croatie est devenue indépendante à ce moment-là. Et donc forcément, cette question-là va être évoquée. Oui.
Je t'avais demandé s'il y avait un thème un peu particulier pour inviter la Croatie. Ben, en fait, il y en a quand même deux. Mm-hmm. Tu as parlé de cet aspect politique et mm-hmm. puis du fait qu'il y avait une action culturelle conjointe entre la France et la Croatie en ce moment.
Oui.
Est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus loin là-dedans? Quel est le but de cette opération d'échange culturel? Et puis, politiquement, ton avis sur ce que mm-hmm. ça va changer sur ce pays d'être dans l'Europe, qui est quand même pas mm-hmm. forcément... c'est pas hyper glorieux d'y être
aujourd'hui, non. C'est sûr que je pense qu'au moment où ils ont entrepris ces démarches pour entrer dans l'Union européenne, effectivement, les Croates avaient une ambition et des attentes très fortes. Mais vu la longueur des processus d'adhésion à l'Europe, forcément, entre le moment où ils l'ont sollicité et puis aujourd'hui où ça arrive, la situation de l'Europe a bien changé et peut sembler un Eldorado beaucoup moins. Comment dirais-je, rayonnant que ce qu'il n'a pu paraître il y a quelques années. Alors je vais essayer de répondre dans l'ordre à tes deux questions. Donc sur le fait qu'il y ait cet événement binational entre la Croatie et la France, ça s'inscrit dans les démarches diplomatiques en fait entre la France et d'autres pays dans le monde. En fait, l'Institut français qui dépend du ministère des Affaires étrangères a pour mission d'organiser ce qu'on appelle des saisons culturelles étrangères en France et donc monte des partenariats et des invitations qui peuvent être réciproques d'ailleurs, puisque la France peut être aussi invitée dans des pays étrangers pendant une année, une saison, quelques mois. Et ça, vraiment, ce sont des choses qui sont décidées, si j'ai bien compris, au plus haut niveau de l'État, enfin, qui sont vraiment dans des logiques diplomatiques.
Et voire programmées à l'avance.
Elles sont programmées longtemps à l'avance.
C'est comme ça que vous avez su que la Croatie, c'était là, donc vous pouviez prévoir de...
Tout à fait, oui. Ouais. Là, on connaît les saisons culturelles étrangères en France pour les deux prochaines années sans problème. Donc après voilà, ce sont des intérêts diplomatiques qui vont faire que deux pays vont décider de travailler ensemble à une promotion notamment culturelle de leur pays en France. Et après, pour répondre à la question sur politiquement ce que ça engage pour la Croatie d'entrer dans l'Europe, je suis pas le mieux placé pour y répondre parce que justement nos invités le feront sans doute beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Ce qui est certain, en tout cas pour l'avoir constaté lors des différents voyages de repérage que j'ai pu faire en Croatie, c'est que l'enthousiasme est très modéré sur le sujet de la part des Croates. Il y a eu un référendum qui a été mis en place il y a quelques années au moment justement de la décision d'adhérer à l'Europe qui a été positif, enfin, c'est-à-dire où les Croates se sont prononcés de manière positive. Là, de tous les retours qu'on a eus, c'est l'idée que ça, comment dirais-je, ça va pas forcément changer grand-chose dans leur quotidien et probablement leur amener plus de contraintes qu'autre chose par rapport à l'état du pays aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que la Croatie, dans une situation propre à d'ailleurs plusieurs autres pays de cette zone des Balkans, qui est que finalement, quasiment toutes les ressources industrielles ou économiques sont déjà entre les mains d'autres pays, notamment l'Allemagne, la France, et que les banques croates dépendent des banques allemandes, tout le réseau, je crois, ferré et tout ce qui est route, etc. Là aussi, ça dépend d'entreprises extérieures à la Croatie. Et donc, on peut comprendre l'enthousiasme modéré des Croates à la perspective de cette adhésion, d'autant qu'effectivement, ils sont dans une situation économique qui sans être absolument semblable à celle de la Grèce, par exemple, est extrêmement fragile. L'entrée dans l'Europe n'est plus du tout forcément vécue comme une possibilité pour améliorer, si je puis dire, le quotidien du pays, quoi.
Ok, bon, bah voilà pour cette introduction sur la Croatie. Merci quand même de ces précisions. On va se concentrer maintenant précisément sur le festival, sur sa longueur, sur sa programmation. Mm-hmm. On peut rappeler un petit peu les thématiques. C'est souvent très littéraire.
Il y a une dominante littérature voilà, qu'on a mise en place effectivement depuis 2008. Donc là, on la retrouve dans cette édition avec une douzaine d'écrivains croates qui sont donc invités et qui vont débattre à la fois de thèmes littéraires, mais aussi de thèmes de société, d'actualité. Parce qu'en les rencontrant, on s'est rendu compte que les écrivains croates, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs dans tous les pays qu'on a pu inviter, sont particulièrement impliqués dans la vie sociale, culturelle, politique de leur pays. La plupart sont journalistes par ailleurs, donc ils ont un regard très précis sur l'actualité, ils sont éditorialistes, enfin voilà, ils ne sont pas du tout dans leur tour d'ivoire et au contraire ils sont tout à fait partie prenante de la vie encore une fois sociale, économique et politique de leur pays. Donc ils ont vraiment été tous partants pour justement participer à des débats qui ne soient pas strictement littéraires, mais qui justement vont les amener à parler du point de vue de la société civile, d'un certain nombre de réalités de la Croatie d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que l'aspect table ronde qui avait été développé un peu plus encore il y a 2 ans, je crois, maintenant devient une grosse partie de cet échange littéraire.
Oui, ça devient une grosse partie effectivement de la programmation. Aussi parce qu'on a bien senti que c'était qu'il y avait une vraie appétence du public.
J'avais posé la question, ça marche
Oui, ça marche.
Les gens se réunissent pour débattre.
Les gens se réunissent pour débattre et le public français, le public du festival, pour entendre ces débats, y participer et venir effectivement nourrir sa façon d'appréhender effectivement ce pays. Alors, c'est vrai que sur la Grèce, l'an dernier, ça a été particièrièrement fort parce que... on était vraiment au cœur de l'actualité et que les Français avaient vraiment envie d'en savoir plus quoi, sur ces réalités-là. Sur la Croatie, effectivement, c'est moins évident parce que c'est un pays dont on parle peu dans les médias occidentaux aujourd'hui. Néanmoins, il y a pas mal de problématiques communes qui vont faire écho à des choses qui ont été évoquées l'an dernier. Et puis, il y a une vraie curiosité du public du festival pour ne pas en rester à une image figée ou stéréotypée du pays. Parce que c'est vrai que, comme pour la Grèce, la Croatie, aujourd'hui, en tout cas, elle a développé une image touristique très forte, avec ses magnifiques plages de l'Adriatique, etc. Elle est surtout connue par les Français pour cet aspect-là.
Par le volant touristique.
Oui, par le volet touristique, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, on va avoir un débat à ce sujet, vécu que comme un atout et que comme un élément moteur et uniquement comme un levier de développement, puisque comme tout développement touristique, même s'il est relativement maîtrisé d'après ce que j'ai pu en comprendre en Croatie, il y a quand même une tendance à dénaturer le littoral adriatique avec la construction à la va-vite d'ensemble hôtelier, pour répondre à une clientèle européenne friande de ce type d'infrastructure. Donc ça pose question. Et il faut savoir aussi, la Croatie, on pense souvent évidemment au littoral adriatique, mais il y a toute une partie du pays qui est dans les terres et qui elle aussi regorge de trésors à la fois historiques mais aussi naturels, parce qu'il y a des parcs naturels absolument sublimes au centre du pays, et aussi un pays qui est à la fois à la croisée d'influences méditerranéennes, influences austro-hongroises, italiennes. C'est vraiment une terre de carrefour et de croisement.
C'est vrai qu'on voit que la Croatie est actuellement très à la mode et qu'on en a plus une image effectivement de carte postale.
Ce qui était le cas aussi pour la Grèce, puisque l'image de la majorité des gens de la Grèce, avant qu'il y ait effectivement tout cet éclairage donné par les aspects économiques et politiques du pays, c'était essentiellement le ciel bleu, la mer, la petite église au toit bleu et au mur de chaux peint en blanc, et puis les vieilles pierres, etc.
Quoi. Mm-hmm. La Croatie, c'est aussi un pays qui a été déjà exploré, une partie par le festival, puisque le festival s'était penché sur la Yougoslavie à l'époque. Mm-hmm. Est-ce que vous avez retrouvé des personnes qui étaient sur cette première édition de la Yougoslavie pour voir comment ça avait évolué aussi
Alors non, parce que pour être honnête, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu une édition dédiée à la Yougoslavie. Enfin, j'ai repris les archives.
Il y avait des...
Alors, peut-être sur l'édition albanaise où effectivement les gens invités, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'édition intitulée Yougoslavie. Quoi. Alors après, c'est possible que sur certaines éditions, il y ait des habitants d'ex-Yougoslavie, mais qui pouvaient être aussi bien des Serbes, des Bosniaques ou que sais-je, qui aient été invités. Mais je sais que ça a été en débat dans les années 90, au moment où il y avait la guerre, les guerres d'indépendance, notamment.
C'est peut-être la confusion qu'on fait souvent entre le comité d'échange, ceux qui font les comités de jumelage, etc., et le Festival Est-Ouest, qui à un moment donné était très lié, et finalement...
Sais que ça n'avait pas été fait, justement, l'invitation de ces pays-là à ce moment-là, c'est ce qui m'a été raconté, précisément parce qu'à l'époque, au sein du festival, il y avait des tensions dans l'approche politique de ce sujet-là, et que justement, ça avait donné lieu à un renoncement à l'invitation de ces pays. Donc, je n'ai vraiment pas vu d'édition dédiée à la Bosnie, ça j'en suis quasiment sûr. Quoi.
Alors, on était sur ce volet littéraire. Est-ce qu'on peut le détailler un petit peu? Comment ça va se passer? Sur combien de jours? Tout le long du festival?
En fait, c'est tout le long du festival. Bon, il y a toujours sur les deux week-ends, donc les 22 et 23, et puis 29-30 septembre, qui sont les plus denses en termes de programmation. Donc, avec des tables rondes qui vont aborder, encore une fois, différentes thématiques. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail des contenus. Des cafés littéraires qui vont être proposés en semaine dans différents cafés de Die. Et puis, toujours ces auteurs invités qui vont être en tournée dans la région Rhône-Alpes, mais aussi en Bourgogne et en Île-de-France, pour rencontrer d'autres publics, notamment en partenariat avec des médiathèques ou bibliothèques sur l'ensemble de la région. Donc en tout, c'est à peu près une cinquantaine de rencontres avec ces écrivains qui sont proposés tout au long du festival. Et avec... Peut-être une spécificité, si on veut donner un peu une couleur un peu de l'écriture de ces écrivains, c'est que c'est en tout cas ceux qui sont invités et qui sont donc traduits en français. Et toujours dans cette problématique-là, nous, avec le festival, c'est de choisir des écrivains dont les œuvres sont accessibles en langue française, donc qui ont été traduits. Enfin, il y aurait trois même à préciser les concernant. Ce ne sont pas les écrivains, entre guillemets, officiels de la Croatie, c'est-à-dire qu'on a même eu quelques échanges assez... musclé avec les comités mixtes d'organisation de cette fameuse saison croate, puisque en fait les écrivains qu'on a invités sont des écrivains qui sont vécus en tout cas par le pouvoir politique croate, sinon comme dissidents, en tout cas pas franchement dans la ligne officielle souhaitée. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis le deuxième, c'est que beaucoup de ces écrivains ont des œuvres qui interrogent la question de la mémoire, et notamment des deux guerres qui ont marqué l'histoire de la Croatie, la Seconde Guerre mondiale, où il y a tout un travail de mémoire qui justement n'a pas été fait, et dont les écrivains sont en partie emparés, notamment par rapport à la période Ustachi, qui a vraiment marqué le pays et les générations qui ont suivi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'il y a eu un régime fasciste en fait, qui a été mis en place sur le modèle nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui a eu des effets évidemment désastreux et barbares et violents, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour ce type de régime, et que ce travail de mémoire là par la population croate a manifestement pas été fait, et donc pèse dans l'histoire
c'est même pas enseigné à l'école, hein, je crois, hein. C'est à peine survolé,
à peine survolé. Donc il y a une espèce de chape de plomb qui est sur ce sujet là et puis bien entendu sur la guerre d'indépendance 91-95, qui là aussi reste extrêmement tabou et assez peu évoqué par les Croates eux-mêmes, notamment dans cette lutte avec la Serbie. Dans les faits, on ne peut pas nier que la Croatie ait été agressée, entre guillemets, par la Serbie.
Mais ils ont quand même été agressifs après.
Et ils ont été assez agressifs après, et que là aussi, il y a tout un travail à la fois historique et de mémoire qui n'a pas été forcément fait dans le détail, et qui pèse aussi dans le dans les mentalités actuelles en Croatie et qui vont avoir évidemment avec le sentiment national, pour ne pas dire le nationalisme, qui est quand même assez exacerbé en Croatie actuellement, avec ce qu'on peut imaginer, enfin d'extrêmes évidemment qui peuvent en émaner.
C'est la seule raison, pardonne-moi, c'est ce qui explique que ces auteurs qui ont été invités là soient, comme tu dis, pas dans le courant traditionnel, ou est-ce que parce que le courant traditionnel est chiant, vous avez eu envie de faire une vague ou en invitant ces gens-là?
Non, on n'a pas envie de faire une vague. Il se trouve que les écrivains qui sont plus dans le,
traditionnel,
dans le moule, si je puis dire, ils ne sont pas traduits en français, c'est pas un hasard.
Ah, d'accord.
Probablement, c'est aussi parce que les éditeurs français font leur choix en fonction de ce qui leur semble pertinent pour un public français. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les auteurs que nous avons invités revendiquent assez peu, pour ne pas dire qu'ils se positionnent de manière assez forte et critique face à cette exacerbation du nationalisme croate, ça c'est certain.
Et comment se fait ce choix justement des écrivains? Vous avez une totale liberté, c'est vous qui décidez, ou c'est des choix, tu disais, on choisit des auteurs qui ont été traduits en français.
Ça, c'est le premier critère, c'est effectivement que les auteurs soient traduits en français. Après, au niveau du choix définitif, on a effectivement une totale liberté, enfin, personne ne nous impose quoi que ce soit, et quand on essaye, sinon nous imposer en tout cas, d'orienter nos choix, si on estime que ce n'est pas juste, on le manifeste et on défend notre point de vue, ce qui s'est passé avec les Croates, mais aussi avec les écrivains turcs qu'on avait invités il y a 3 ans. On avait été aussi un peu dans ce rapport-là avec les autorités turques.
D'être dans une saison culturelle, ça ne bride pas du tout le choix que vous pouvez faire.
Ça pourrait. Il se trouve que quand on a essayé de nous brider, entre guillemets, on a répondu de manière extrêmement ferme là-dessus, et en revendiquant notre indépendance de choix. Quoi. Enfin, on n'est pas là pour servir la soupe aux autorités du pays, et que s'ils veulent effectivement qu'il y ait une image de leur pays qui soit proposée en France, il faut aussi accepter que celle-ci ne puisse pas qu'évoquer les aspects positifs ou flamboyants du pays. Et si la France était invitée dans un autre pays du monde, personnellement, je souhaiterais qu'il en soit de même. Enfin, il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que sur la Turquie, on avait eu quelques soucis quand on avait souhaité aborder la question du génocide arménien. Sur la Russie, on avait eu quelques soucis aussi quand il avait été question d'aborder la question des libertés d'expression, etc. On est dans des opérations diplomatiques, donc forcément, il y a des tensions, et après c'est à chaque organisateur de définir quelle est sa politique de programmation et jusqu'où il n'a pas envie d'aller. En ce qui nous concerne, la liberté de programmation, elle est fondamentale, sinon on serait complètement instrumentalisé par les organisateurs de ce type d'échange. Donc pour terminer sur les écrivains, parce que c'était là d'où j'en étais parti, outre cet aspect-là donc, que je décrivais, il y a aussi le fait que du coup, dans beaucoup de leurs écrits, il y a cette capacité à appréhender l'histoire, à appréhender le réel. Dans ce qu'on a pu lire, ce ne sont pas d'immenses stylistes. Enfin, on ne peut pas dire qu'on ait eu des révélations fracassantes sur
la grande littérature.
C'est vrai que c'est pas de la grande littérature, mais c'est que ils sont plus mobilisés sur le sujet et les thématiques que sur des questions stylistiques, de langue, etc. C'est pas leur priorité immédiate. En tout cas, à part pour une écrivain qui s'appelle Ivana Saïko, qui elle aborde les choses un peu différemment, mais ça n'empêche pas que ce soit de la littérature de très bonne qualité. Mais on sent que l'attention n'est pas portée spécialement sur cet aspect-là des choses.
Après la littérature, il y a quand même d'autres volets assez importants. Un volet évidemment musical et festif. Et il y avait du cinéma, il me semble, d'habitude. Oui. Est-ce qu'il y a encore cette année?
Oui, bien sûr, il y a du cinéma. J'aime bien la formule pour faire taire
une rumeur. C'est très important.
De quoi de faire taire les rumeurs.
Oui.
De...
et puis de confirmer qu'il y a bien un volet cinéma.
Oui, il y a bien un volet cinéma.
Qui est souvent donc très important quand même, on peut le dire. C'est peut-être le deuxième plus gros volet après la
littérature. Non, ça, ça a toujours été équivalent avec notamment le spectacle vivant.
D'accord.
Voilà, qui est aussi très important cette année. Oui, il y a une programmation cinéma qui est proposée, qui est effectivement peut-être moins importante que les années précédentes et qui surtout n'a pas lieu comme ça a été le cas pendant de très nombreuses années au cinéma Le Pestel, et que donc on va faire directement au théâtre. Donc on a fait le choix de présenter des films de jeunes cinéastes, c'est-à-dire de la nouvelle vague vraiment de films qui datent de ces 15 dernières années. Des cinéastes qui sont représentatifs du renouveau du cinéma croate qui, comme dans la plupart des pays balkaniques, le monde du 7e art a connu une espèce de gouffre justement après la guerre d'indépendance. Donc il a fallu quelques temps pour que
ça et là, puis on peut
remettre.
Ça, puis on peut s'imaginer qu'avant c'était peut-être un peu propagandiste comme cinéma.
Pas forcément. Non. Il y a eu des œuvres assez, assez intéressantes et assez fortes qui n'étaient pas forcément dédiées à l'apologie
d'un régime.
De la même manière qu'en ex-URSS, même pendant les périodes les plus rudes, il y avait quand même un cinéma indépendant aussi qui arrivait à exister, à s'exprimer. Donc là, voilà, ce sont vraiment plutôt des films très ancrés dans, là aussi, des réalités sociales, historiques, qui, je pense, vont donner aussi un autre visage de la Croatie, parce que, en l'occurrence, pour ces différents films, on est très loin de l'image touristique.
Les
cartes postales de la Croatie, quoi, pour les avoir visionnées, là, je le confirme allègrement.
En détail, c'est un cinéma plutôt rude, un peu triste, réaliste.
Oui, c'est un cinéma rude. Enfin, en tout cas, les films qui vont être présentés, bon, il y a un film qui s'appelle Juste entre nous, qui est plus dans le registre de la comédie sociale, etc., qui montre un visage de Zagreb, la capitale, aujourd'hui, assez contemporain, et qui est effectivement plus léger. Les autres films, notamment ceux de Dalibor dont on présente presque une rétrospective, puisqu'on a trois de ces films qui vont être présentés, plus des courts-métrages, on est dans un univers violent, dur, éprouvant parfois, mais extrêmement fort émotionnellement et visuellement aussi, parce qu'ils arrivent à l'intérieur de ça à mettre aussi une forme de poésie, d'onirisme qui rend cet univers cinématographique très, très, très attachant.
Et en termes de décor, à quoi s'attend-on en Croatie ? On a parlé du décor carte postale, tu as parlé de l'arrière-pays qui était plutôt joli, mais est-ce qu'il y a aussi de grandes friches comme il y a pu y avoir dans certains pays de l'Est ? Est-ce que c'est un peu désolé ?
Moi, je ne les ai pas vus de mes propres yeux. Dans les films en question, je n'ai pas vu de choses qui relèvent vraiment de cet ordre-là. Ça existe peut-être, mais en tout cas, je l'ai pas vu. Parce qu'autant, à Zagreb, où j'ai passé beaucoup de temps dans la capitale, il n'y a pas du tout ça. Enfin, c'est vraiment une très, très jolie ville d'Europe centrale, avec les codes habituels de ce type-là. J'ai été un peu dans la banlieue. On n'est pas dans une banlieue,
défraîchie.
Je l'ai pas vu. Et on n'est pas non plus comme à Saint-Pétersbourg, par exemple, qui le tricentenaire de la ville, il y a quelques années, avait été complètement ripolliné en façade. Et dès qu'on passait la façade des immeubles, on se retrouvait effectivement dans un univers particulièrement décati, pour ne pas dire laissé à l'abandon.
Eh bien, est-ce que ce volet cinéma, il y aurait aussi peut-être une thématique particulière en dehors de cette, effectivement, de montrer un peu comment est ce pays ? Est-ce qu'il y a eu un lien entre tous les artistes invités ?
Le lien, ça a été de faire écho aussi à la thématique du festival, au sous-titre en fait, qu'on n'a pas évoqué.
Oui, d'ailleurs, évoque-le.
Sans transition, c'est-à-dire que beaucoup de Croates nous ont témoigné du fait que ça fait 30 ans qu'on leur dit que leur pays est en transition, post-communiste, en transition post-guerre, d'indépendance, ensuite en transition économique, puisque presque bascule dans un modèle effectivement occidental et libéral, et que ils en ont marre en fait d'être considérés comme étant toujours en transition de quelque chose. Ils estiment que non, il y a un certain nombre de choses qui sont construites, qui existent, etc. Et les films qu'on a choisis peuvent donner cette image-là effectivement d'un pays qui n'est pas seulement en transition, mais qui a connu effectivement des mutations, qui ont des effets dans le réel et dans la société croate, qui pour autant ne sont pas en constante transition vers on ne sait quel d'ailleurs objectif. Parce que quand on dit qu'on est en transition, c'est qu'on va être quelque part pour aller vers autre part, et que en l'occurrence, ça c'est pas forcément leur réalité.
Est-ce que ces écrivains et ces cinéastes, justement, ne montrent pas, n'envoient pas une espèce de message d'objectif à atteindre ?
Encore une fois, là, je peux difficilement parler à la place des Croates sur le sujet. On aurait presque pu mettre un point d'interrogation à Sans Transition. Quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas une affirmation dans l'absolu. C'est plus pour jeter le débat, mais sur d'autres bases, peut-être que celui sur lequel il est traditionnellement mené pour la Croatie. Après, ça m'est difficile de répondre de manière objective à cette question. Je peux formuler mon avis mon avis personnel. Il est certain que les Croates revendiquent une identité spécifique croate, que ce soit au niveau de la langue. Enfin, ils renient de manière assez forte la définition d'une langue serbo-croate. Non, ils estiment que c'est le croate qui existe en tant que tel. Volonté identitaire forte qui est partagée, mais qui est aussi rééquilibrée par aussi un mouvement un peu de yougo-nostalgie, on pourrait dire ça comme ça. Des gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans cette tendance nationaliste du pays. Après, comme tous les pays qui ont basculé dans des économies néolibérales, ils aspirent à, comment dirais-je, les soi-disant bienfaits
plus d'Amérique.
De la dite américanisation, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, d'un niveau de vie qui soit équivalent aux standards occidentaux. Ça, c'est évident que cette mutation-là, elle a eu lieu. Et après, ils sont confrontés aux mêmes problématiques que de nombreux pays européens. C'était la problématique de chômage, des problématiques de dette. Ils sont sur des schémas assez identiques à ceux qu'on connaît. Donc,
en termes d'image, c'est pas tant la Roumanie, par exemple, qui est très pauvre, etc. Ce qu'on peut nous s'imaginer, ce que la France s'imagine d'un pays comme la Roumanie, c'est plus proche, on va dire, de la Grèce ou d'un pays ou de l'Italie.
Oui, tout à fait. De toute façon, la Croatie est actuellement le pays qui économiquement sur cette zone-là s'en sort le moins mal.
D'accord.
qui est plutôt le top des pays qui s'en sortent le mieux comparé à la Serbie, la Bosnie ou d'autres pays voisins. Donc ça, c'était pour le cinéma. Et sur le spectacle vivant, j'aimerais bien un tout petit peu.
Il faut s'attarder maintenant sur le spectacle
On a la chance, cette année, d'avoir pu faire une programmation en spectacle vivant qui s'appuie à 90% sur la venue d'artistes croates qui viennent donc présenter leur spectacle en France, grâce au soutien, là, pour le coup, de cette saison culturelle étrangère en France, qui n'a pas toujours été le cas sur les éditions
précédentes. De te couper. En fait, c'est parce que des fois, les éditions précédentes, c'était des groupes qui jouaient la musique traditionnelle du pays, mais qui n'étaient pas forcément du pays, c'est ça.
Ils étaient originaires quand même du pays.
Parfois, en lien.
Il y avait toujours, dans les Grecs, dans les Turcs ou autres, des gens qui étaient originaires du pays. J'ai pu aller au mois d'octobre dernier assister à plusieurs festivals en Croatie, donc aller voir un certain nombre de choses et choisir des spectacles et des productions croates, notamment en musique, le Cargo Rundek Trio, mené par une des figures légendaires pour le coup de l'ex-Yougoslavie qui s'appelle
Antoine
Rundek
Darko
Rundek, je vais y arriver, qui vient avec son trio pour un concert de rock qui peut-être d'ailleurs, si tout va bien, sera retransmis en direct sur l'antenne de Erdivois.
Tout va bien
en échange
et merci de cette invitation.
Thank you.
ljude vara. Biću mlada, misli stara, vadi novce iz ormara, onda posle prigovara. To nije moje lice, ono ide mi na živce, nasmijava klince. Možda više vredi da okreneš se sebi, možda nađeš stvari što za pari nikad ne bi. Baby, baby, para ljude vara. Ko je to reći onom što za pare nema dara? Ima para, to je moda, ko je bogat, da je zgodan. Dere, vrti lovu, kupi, proda. Jedri, leti po planeti, danas skupa je sloboda. Ostavi malo za nas naj, ne za nas. Lude, al pare, kvare ljude, ko ih ima, taj ih ne da. Srce mu odleda. Kapitalizmu je kraj, nek ovde bogato više daje. Umjesto zlata nek oči sjaje i zemlja postaće raj. Ne boga ko više daje, umjesto zlata nek oči sjaje i zemlja postaće raj. Umjesto zlata nek oči sjaje i zemlja postaće raj.
Également une des meilleures compagnies de danse contemporaine qui sera présente, menée par une chorégraphe qui s'appelle Masha Kollar, qui présente une création sur les rapports hommes-femmes. C'est un spectacle assez, pour le coup, assez léger, enfin, qui est dans un registre un peu différent du reste. Très drôle, plein d'humour, et enfin voilà, avec vraiment des danseurs exceptionnels. On va avoir également une compagnie de cirque dont le titre du spectacle est un peu particulier, puisque c'est une formule chimique qui s'intitule C8H11N02, parmi les compagnies les plus en pointe au niveau de la création. On appelle ça du cirque, mais ce qu'il propose a plus à mon sens à voir avec de la performance et de la danse, dans la mesure où ce sont des contorsionnistes et qu'ils ont créé un spectacle qui est vraiment déroutant, troublant et très très fort émotionnellement, où, avec leur corps, puisqu'ils sont donc contorsionnistes, ils traduisent les images mentales qui leur semblent devoir être celles de, des états schizophréniques, en fait. Et donc, on est plongé dans un monde très, très, très étrange. On n'identifie plus des corps humains, mais des formes qui sont au service de l'expression de ces états-là. C'est vraiment un spectacle complètement hypnotique et fascinant. Enfin, moi, j'avoue que je n'avais jamais vu ce type d'approche-là, en tout cas, du cirque. Et je pense sera un des grands moments forts et émotionnels du spectacle. On va également accueillir une troupe, fait une création qui s'appelle s'appelle Je hais la vérité, là, qui est donc du théâtre, avec un des dramaturges les plus en pointe actuellement, qui s'appelle Oliver Fridge. Une pièce assez autobiographique qui, justement, interroge voilà, des questions de la mémoire, de comment celle-ci est transmise au sein d'une famille, enfin, etc. C'est un spectacle, pareil, très très fort au niveau du jeu des comédiens, qui sont époustouflants, enfin, qui ont une présence et une façon de s'investir dans leur personnage qui est extrêmement forte. Et puis, on va avoir deux spectacles mixtes, si je puis dire. Mixtes, c'est-à-dire qui mélangent des acteurs qui vont venir de Croatie et des acteurs français. Un qui s'appelle La Cité du Soleil, donc une pièce de théâtre d'un grand auteur croate qui s'appelle Radovan Ivcic. C'est une compagnie française, le Théâtre Haut, qui nous a fait cette proposition. Ce sera une création, puisque le spectacle n'a jamais été montré nulle part avant, et qu'on va donc accueillir la compagnie en résidence pendant une dizaine de jours. Je ne vais pas raconter le spectacle, mais ce qui est intéressant, c'est que donc il y a une équipe professionnelle mixte d'acteurs français et d'acteurs croates, et qu'en plus, on a lancé un appel à participation aux habitants du Diwa, de Di et d'ailleurs, à venir rejoindre la troupe, puisque la pièce est structurée de telle sorte qu'il y a un chœur, en fait, un peu façon chœur antique, qui est dans la pièce, et qui permet d'intégrer du coup dans le processus de création des comédiens amateurs ou semi-professionnels qui souhaiteraient participer à ce spectacle. Donc c'est une belle aventure artistique.
Il y a eu des réponses d'ailleurs.
Et on a déjà pas mal de réponses. Il reste encore des places parce que l'idéal ce serait de constituer un groupe de 25 personnes pour ce groupe. On en a à peu près une quinzaine là, de personnes qui se sont d'ores et déjà inscrites. Donc il reste encore des places. N'hésitez pas.
Et concrètement, ils font appel. Ils vous contactent au bureau du festival.
Voilà, ils nous contactent au bureau du festival. Et puis, il y a plusieurs formules selon leur disponibilité pour être plus ou moins investis dans le processus.
Ça va du rôle de figurant à ceux qui peuvent avoir des répliques, ce genre de choses.
C'est plus, comme il y a l'idée d'un chœur, c'est vraiment comment dirais-je, toutes les personnes qui vont s'impliquer dans ce projet constituent vraiment le chœur qui sera à la fois chanté et parlé. Donc, il y a à la fois une
présence
constante. Chant et une partie théâtre. Et on peut tout à fait faire les deux, même sans expérience préalable. C'est aussi tout le talent de Marc Sologoub qui met en scène le spectacle, de pouvoir aussi mener ce type de travail avec des gens qui seraient amateurs. Et voilà, c'est une belle manière aussi de faire se rencontrer au sein d'un projet de création. Des gens du Diwa, d'être toujours dans cette optique de partage, d'échange, de rencontre.
Qu'on a déjà bien développé dans les précédentes interviews.
Voilà, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc il y a ce projet-là. Et puis, il y a un autre projet qui s'appelle Mon Petit Guide en Croatie, qui là, est une autre proposition assez originale, qui mélange là aussi des acteurs croates, des acteurs français, mais qui est en fait une promenade théâtralisée où l'idée de ce spectacle est venue à l'équipe de création parce que un des comédiens a été guide en Croatie, donc pour des touristes, dans une autre vie, et que donc il en a gardé une expérience assez forte d'avoir été guide pour ces touristes. Et donc il a imaginé une sorte de spectacle itinérant et déambulatoire, c'est-à-dire d'emmener les gens en bus faire une promenade, alors qui aura lieu pour le coup dans le Diwa. Mais le Diwa, par la force de l'imaginaire et le jeu des comédiens, va se transformer en une Croatie imaginaire. Et l'idée, c'est d'emmener les gens dans une vraie fausse promenade où ils vont voir des sites qu'ils
connaissent très bien.
Qu'ils connaissent très bien, mais qui, par ce que va leur en dire l'équipe de comédiens et leur faux guide, vont devenir des éléments historiques ou paysagers de la Croatie.
Précise un petit peu, ça va être une promenade en un seul bus. Un bus, c'est pas beaucoup, c'est 50 personnes.
Parce que là, on a des bus de 27 places. Il y a 4 promenades qui sont prévus. Donc deux le samedi.
Ça va falloir réserver.
Il faut réserver assez tôt parce qu'effectivement le nombre de places est limité. En plus, ils abordent ça de manière très décalée, avec humour, un sens de la dérision qui je pense, devrait permettre aux gens de passer un très beau moment. Et en plus, d'aller déguster de la clairette, puisque parmi les trajets, sur ces deux promenades, il y aura des arrêts dans des caves du Diwa, notamment à la cave d'Alliance et puis à la cave. Carotte, voilà, tout à fait.
J'ai entendu qu'un seul concert, hein. Il n'y en a qu'un ?
Alors non, il y en a un deuxième.
Ça c'est pour moi, hein, perso.
Il y en a un deuxième qui est avec le groupe qui s'appelle Blaga Ruge, une fanfare balkano-croate, on peut dire ça comme ça. Ce concert va mélanger à la fois une dimension fanfare balkanique qu'on peut connaître, mais aussi des chants relevant du répertoire du klapa, qui sont ces chants traditionnels croates qui sont principalement chantés par des hommes et qui se fait a cappella, mélangeant plusieurs voix et qui aborde des thématiques assez rustiques, on va dire, enfin, voilà, où il parle de la mer, de la pêche, du travail de la terre, etc. Et donc, voilà, ils vont mélanger à la fois cet aspect fanfare festif et puis quelques temps dédiés à ces chants traditionnels croates du klapa.
Est-ce qu'il y a encore des échanges avec les écoles, etc.
Tout à fait, oui. Il y a de nombreux échanges qui sont prévus, que ce soit au niveau cinéma, avec des projections notamment de films d'animation, parce que la Croatie a été très forte en termes de cinéma d'animation.
La petite taupe, ça vient de là-bas, je crois.
Tout à fait, oui.
Ça, c'est très connu.
C'est pas forcément le meilleur, mais c'est très connu.
Bah, effectivement, c'est très connu. On a grandi pour les enfants, en tout cas.
Ouais, voilà. Et puis on a grandi avec, notre génération, en tout cas. Sinon, il y a effectivement des rencontres avec des écrivains en lycée, en collège. Il y a un partenariat avec l'Option Cirque qui va justement venir voir le spectacle de la compagnie de contorsionnistes dont je parlais tout à l'heure. Il y a des lycéens et collégiens qui vont venir voir la Cité du Soleil en séance scolaire, là, donc ce spectacle participatif, etc. Donc oui, il y a pas mal d'actions qui sont effectivement dédiées aux jeunes publics. Et puis, on a aussi deux lectures qui vont aussi participer à la programmation. L'une autour d'un texte de Slobodan Schneider, qui est un des auteurs qu'on a invité. Et puis une autre qui met en avant une anthologie des écritures théâtrales contemporaines. Parce qu'un détail que j'ai oublié de préciser sur les écrivains, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de dramaturges. Enfin, l'écriture dramatique est très, très présente dans leurs univers et dans leur genre littéraire. Et puis pour terminer, on a aussi quelques expositions qui seront dédiées notamment à Zagreb et Vukovar. Et puis une autre exposition qui mêle témoignages de Croates et photographies sur la Croatie 20 ans d'indépendance. Voilà, donc,
c'est des expos photos essentiellement ?
Oui, ce sont des expos photos essentiellement pour cette année.
Et côté pratique, le festival se déroulera toujours du côté du théâtre ?
Oui, puisque la formule qu'on avait initiée l'an dernier avait très bien fonctionné. Donc effectivement,
le petit vidage.
Voilà, le vidage du festival va reprendre ses marques autour du théâtre. Et on y retrouvera effectivement tous les espaces de rencontre, certaines expositions, les débats, les concerts, la restauration, etc., etc.
Des prix un petit peu, est-ce qu'on peut prendre un pack complet du festival ? C'est une question que je m'étais posée, ça.
Alors, en fait, il y a des passes pour les spectacles, parce qu'il faut savoir quand même dans le festival Est-Ouest, il y a plus de 80% des propositions qui sont gratuites. Donc voilà. Là, il n'y a pas besoin de passe, il suffit de venir, dans la limite des places disponibles. Ensuite, on a fait des abonnements pour les spectacles, parce que c'est ça essentiellement qui est payant. Donc pour 3, 5 ou 6 spectacles, donc on peut se faire la total sans problème pour un prix réduit. Voilà, 6 spectacles pour les non-adhérents à l'association, si vous voulez donc vous faire la totale, c'est 59€ et 46€ pour les adhérents. Donc si vous adhérez à l'association, vous avez du coup un prix moyen du billet qui revient à même pas 8€. Quoi.
Voilà. Et la place plein pot ?
Et la place plein tarif, elle est à 13€ et le tarif réduit à 10€.
Comme ça,
et avec un tarif réduit pour les personnes qui bénéficient de minima sociaux où la place est à 6€ dans ces cas-là. Et pour les jeunes de moins de 18 ans également à 6€.
Et on va terminer en rappelant une dernière fois toutes les coordonnées et puis évidemment là où on peut trouver ce programme en détail.
Pour réserver renseignements, c'est le 04 75 22 12 52. Pour le détail du programme, eh bien, il est disponible sur notre site internet www.est-ouest.com.
Ou un programme papier.
Qui est disponible dans la plupart des commerces de du Diwa, dans les offices de tourisme, les établissements culturels de la ville, à la mairie, enfin partout. On rencontre des bonnes volontés qui acceptent nos affiches et nos programmes.
Eh bien, Harold David, je vais préciser, merci,
merci
pour cette présentation du Festival SOS. Merci Antoine, hein, t'as pas trop dit, mais c'est pas grave, oui, t'as profité.
J'étais là pour écouter aussi.
Ouais. Et merci Sylvaine,
merci,
du JDD. À bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
À bientôt.
Interview. Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.